Vous êtes sur RTL.
7h45, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
Merci d'être avec nous ce matin, merci. Alexis Corbière, dans ce studio d'RTL. Un drame épouvantable s'est produit en Seine-Saint-Denis, où vous êtes élu. C'est un enfant de 12 ans, tué violemment dans une bagarre entre bandes, un gamin, des armes rudimentaires, des motifs dérisoires, semble-t-il. Est-ce qu'on est face à un fait tout à fait exceptionnel, évidemment dramatique, ou un phénomène que, en tant qu'élu, vous avez identifié ?
Non, d'abord, c'est exceptionnel. Même si la situation est préoccupante en Seine-Saint-Denis, mais un enfant de 12 ans qui meurt suite à des coups, c'est exceptionnel. Toutefois, ça arrive à Bagnolet, où je crois que vous m'aviez donné la parole, il y a quelques mois aussi, déjà des coups de feu dans une autre cité avaient été tirés, parce que des bandes rivales cette fois-ci, pour des questions de trafic de drogue, manifestement s'affrontaient. Et ainsi de suite. On est dans un département. Et on a rencontré pour cela le Premier ministre le 26 septembre. Tous les parlementaires, avec des parlementaires, pas seulement
on en avait parlé,
suite à un rapport parlementaire, qui disait que la Seine-Saint-Denis est sous-dotée. Ce que nous demandons, c'est pas plus de moyens pour l'instant, mais qu'au moins qu'en termes des grandes missions régaliennes, justice, police, éducation nationale, nous ayons les mêmes moyens que les autres départements.
La réponse, elle est où ? Est-ce qu'elle est au ministère de l'Intérieur ?
C'est un des éléments. Que les gens sachent que Bagnolet n'a pas de commissariat de plein exercice. Ça veut dire qu'à 18h, la petite antenne de police est fermée. C'est-à-dire que le commissariat, il est situé au Lila et il couvre une zone de près de 800 hectares. Les policiers font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas assez de moyens. J'ai écrit plusieurs fois, notamment à Gérard Collomb. C'est pour ça que j'avais trouvé quand même un peu cynique quand il s'en va en disant « il y a des problèmes dans les quartiers ». Je lui ai demandé moyens supplémentaires. Il m'avait répondu par courrier qu'à Bagnolet, cela allait mieux grâce à la politique du gouvernement qu'il a déployée.
Et vous avez fait des promesses, Édouard Philippe, quand vous l'aviez vu.
Édouard Philippe, il nous a dit, il n'a pas contesté la situation que nous lui présentions. Il a dit « je vais réfléchir depuis le 1er septembre ».
Vous lui demandez de réfléchir très vite.
Maintenant, là, je suis plus que dans la réflexion. Il y a une certaine colère au bout d'un moment. Et à 11h, on va travailler avec le préfet.
Moi, j'ai avez un rendez-vous à
11h30,
la préfecture.
Mais pas seulement moi, mais en termes avec les maires, avec les différents services de l'État. Il faut qu'on ait des moyens. Alors, il y a la moyenne de la police, mais la question, c'est quand il s'agit de jeunes de 12
ans. Mettre un policier, je voudrais juste vous poser, parce que c'est important de savoir quelle est la réponse appropriée. C'est ça qui est intéressant. Mettre un policier derrière chaque gamin. Vous savez, qui disait ça tout à l'heure ? Ce n'est pas la solution. C'est un membre de la police et du syndicat Alliance qui disait sur RTL, ça n'est pas la solution.
Il a raison.
Mais vous savez quelle est sa réponse à lui ? Vous la devinez ?
Non, c'est quoi ?
C'est la réponse pénale. Pour lui, le problème, c'est là. Lui, il réclame un durcissement des peines pour les mineurs. C'est pas nouveau.
Mais avant de dire
du
durcissement, est-ce que tout le monde sait que le tribunal de Bobigny est totalement saturé ? Saturé. Il y a des tas d'exemples qui font que, pour le quotidien, par exemple, on en parlait au Premier ministre, on l'a dit.
C'est la loi.
Non, mais attendez, la justice, c'est même avant de durcir, au moins que la justice soit rendue. C'est-à-dire qu'on prenait cet exemple au Premier ministre, pour divorcer à Bobigny, vous mettez 18 mois. À Paris, vous mettez 6 mois.
Pourquoi je parle ?
Mais parce que, par exemple, quand vous avez des problèmes de violence conjugale, de femmes qui ont le courage de quitter leur domicile conjugal, qui se tournent vers des élus. Vous n'avez même pas la décision pour pouvoir les reloger. Je prends cet exemple pour prendre. Il y a des tas de petites décisions avant de parler durcissement. Est-ce qu'au moins on peut travailler normalement ? Est-ce que les juges peuvent travailler normalement ? Ils ne le peuvent pas.
Donc, mais moi je dis, attendez, la réponse c'est pas seulement ça. C'est ce que disent les policiers. C'est aussi ce que disent souvent le Front National.
Mais je discute avec des policiers. Il faut aussi des moyens de prévention sur le terrain, des éducateurs de quartier, un centre de quartier qui soit ouvert.
Plus d'éducateurs, il y en a.
Évidemment,
pas.
Mais non, dans ce quartier il y en a particulièrement pas. Évidemment, vous avez des villes, on est une ville surendettée, vous avez une baisse en raison des politiques de l'État de moins de 13 milliards dans les dotations qui sont données aux communes. Ça a des conséquences sur le terrain, très concrètement. Donc c'est un tout. Quand on parle de jeunes de 12 ans, on comprendra bien. Après, il y a une culture de la violence qu'il faut combattre, évidemment. C'est un tout. Et il faut une réponse sportive. Est-ce que vous savez est-ce que vous savez que, par exemple, les baisses, notamment dans le budget qui va être présenté, il y aura moins de moyens dans le budget, notamment des sports.
Vous parlez du budget de l'État, de 2019.
Oui, moins 1600 personnels.
Ça contribue, à votre avis, à cette désagrégation.
Au fur et à mesure, quand le seul lien que vous avez sur le quartier, c'est des associations, c'est pour ça que je parle sportives, qui font un bon boulot, parce qu'il y a des bénévoles et tout, mais qu'il y a moins de moyens, que vous avez moins d'emplois aidés, parce qu'ils ont été supprimés ou ils ont été fortement à la baisse. Alors que eux, ils coûtaient beaucoup moins cher que les emplois qui sont soi-disant créés par le CICE.
Vous parlez d'indifférence du gouvernement par rapport à ça. Dans une lettre que vous avez écrite hier soir, indifférence.
Oui, parce que je le répète, parce que quand vous avez un rapport parlementaire qui dit attention, ça suffit. Quand, depuis quelque temps, j'écris au ministre de l'Intérieur en leur disant « Attention, là, on n'a pas assez de moyens. » Et que chaque fois, on me répond, soit comme l'avait fait Gérard Collomb, « Non, à Bagnolet, ça va mieux. » Soit, comme dit le Premier ministre depuis le 26 septembre, ça fait 15 jours, je vais réfléchir, qu'on n'a même pas un calendrier qui nous est proposé. Au bout d'un moment, même si les mots sont forts, je suis en colère, parce que je pense à cette famille aussi. C'est un gamin de quatrième. Hein. Ça veut dire que ce matin, il y aura une chaise vide. Ah bah oui, ça fait mal quand même.
12 ans.
Ouais, ouais, 12, 13 ans. Donc c'est une famille. Après, c'est, vous comprenez, je le dis avec convention. On ne peut pas se dire là, il ne se passe rien. Même si après, il faut préciser les choses. Hein. On va voir, la justice doit avoir lieu, parce que moi j'ai des versions un peu différentes. Qu'est-ce qui a vraiment eu lieu? Mais.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez comme version?
Non, non, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Vous dites qu'il y a des bandes. À quelle bande? C'est possible qu'il ne soit pas, une bande de Bagnolet, que ce soit les rejoindre d'autres gamins, des Lilas, qui sont affrontés à ceux de Romainville. J'en sais rien. De toute manière, y compris son état de santé quand il est hospitalisé, fait encore discussion. Mais qu'importe. Je veux dire, le drame est là. Je pense aux familles. Et il faut que tranquillement, mais fermement, il y ait un changement, des moyens qui soient mis. Bon sang, un gamin de 12-13 ans. Et c'est pour ça, je le dis, moi je ne veux pas que la Seine-Saint-Denis soit caricaturée. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas vrai que ça arrive fréquemment. On ne peut pas non plus dire là-bas, il y a une bande de...
Vous demandez à Édouard Philippe aujourd'hui, qui est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur par intérim.
Oui.
Vous lui dites, on vous attend aujourd'hui, venez nous voir.
Bah oui, je lui avais écrit d'ailleurs, le 26 septembre.
Mais est-ce que
j'aimerais
important,
Madame Martichoux, non, je suis d'accord, je lui ai remis une lettre le 26 septembre qui termine en disant, monsieur le Premier ministre, venez sur place. Même si je sais bien que ça ne réglera pas le problème, mais au moins, venez avec les caméras, venez avec la presse, venez dire, voilà ce qui se passe ici concrètement. C'est pas que de la police qu'on veut. Vous savez, moi je me suis battu dans notre quartier, c'est le problème d'ascenseurs. C'est un tout quand vous avez des ascenseurs bloqués de 18 étages avec des personnes âgées ou des handicapés, des enfants handicapés qui ne peuvent plus descendre. Il y a un ras-le-bol qui monte en ayant l'impression, mais pourquoi on est à ce point-là méprisé? Alors, la Seine-Saint-Denis. Voilà.
On verra comment vous répond Édouard Philippe tout à l'heure.
Et le préfet et tout ça.
Il y a une réunion donc à 11h30 à la préfecture. Je voudrais revenir, Alexis Cambière, sur le coup de gueule impressionnant de François Ruffin, votre collègue de France Insoumise à l'Assemblée.
Une sainte colère, comme on disait.
Une colère contre les députés de La République En Marche qui ont refusé de voter en faveur d'une proposition de loi de la droite qui était en faveur du handicap. Il accuse le gouvernement de ne rien faire. Alors, renseignement pris, moi je n'ai pas trouvé une seule association de lutte en faveur du handicap, en faveur de la politique du handicap, qui est favorable à cette proposition de loi. Donc, ça pose une question. Est-ce que c'est un coup de gueule au service de France Insoumise ou du handicap, cette affaire?
Non, mais du handicap, que les choses soient claires. Ce qui a eu lieu, c'est le fait qu'il y a une motion de rejet préalable qui a été votée par... Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu en débattre et améliorer cette loi.
3h30 en commission, il y a eu. En commission
Vous savez, Madame Martichoux, non mais je veux pas être trop technique.
La discussion en hémicycle.
Non mais c'est important. Ça veut dire que dans l'hémicycle, on a formellement des journées qui sont consacrées à ce que les groupes minoritaires puissent présenter des projets de loi.
Donc c'était juste un problème de discussion.
Mais c'est qu'on peut même pas en discuter. Mais c'est un problème de fond.
Ça a été discuté 3h30 en commission, disent les députés de la République En Marche.
Mais avec quelle réponse? Avec circuler, il y a rien à voir. On discutera pas de votre texte, on l'améliorera pas. C'est tout. Et que ça devient insupportable. C'était parce que si le texte LR n'est pas bon, on pouvait en discuter, et même les députés En Marche qui ont tant d'idées merveilleuses, ils pouvaient l'améliorer. Pourquoi ils ne veulent même pas en discuter? C'est pour ça que François Ruffin pousse un coup de gueule. Pourquoi ils ne veulent même pas en débattre? Pour quelle raison? Tout de même, on parle du fait que ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait un statut un peu consolidé.
Alors, disent,
des gens qui accompagnent aujourd'hui les enfants handicapés.
Eux disent qu'il y a eu 3 heures de débat dans l'hémicycle, 3h30 en commission. Mais est-ce que c'est bon pour le débat public?
Non mais eux disent, les faits sont où? Est-ce que ce texte de loi a été rejeté et n'a même pas été débattu? Est-ce que les députés En Marche...
Il a été discuté.
Pourquoi
en commission,
ils n'ont pas amélioré? Non, écoutez, mais attendez, ils sont majoritaires.
Pour les auditeurs, c'est pas, pas très intéressant, moi je vous demande.
Ah, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont majoritaires En Marche.
Pour le débat public,
oui.
Non, c'est intéressant.
Oui.
Pour le débat public, est-ce que c'est bon, cette utilisation de l'émotion? Est-ce que c'est faire de la politique?
C'est pas l'utilisation de l'émotion, c'est dire que, comme le dit François Ruffin, ces députés Playmobil qui sont là pour venir nous faire perdre du temps, c'est-à-dire que quand on veut discuter, de lever la main en disant non parce que c'est pas un texte qui vient du gouvernement, ça commence à devenir insupportable sur tous les sujets.
Donc vous revendiquez totalement ce qu'a fait François.
Ah ben c'est fantastique,
c'est
parce que ça permet, ben oui, c'est un courage de venir dire et que tout le monde voit ce qui se passe dans l'hémicycle. Écoutez, les députés, ils parlent au nom du peuple, à vous de juger, allez voir. Moi c'est pour ça que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que notamment avec la vidéo, on peut voir les débats parlementaires, vous pouvez assister à ça. Si vous aimez pas Ruffin, vous aimez pas Corbière, vous avez le droit, mais mêlez-vous de ce qui se discute à l'Assemblée nationale. Et là notamment quand il y a un texte qui est rejeté par la majorité, qui ne veut même pas débattre.
Même s'il est mauvais.
Mais il est améliorable. Ils sont là pour ça, ils sont majoritaires pour
ça. Emmanuel Morel quitte le Parti Socialiste, Alexis Corbière avec Marie-Noëlle Lienemann. C'est une victoire de France Insoumise sur le Parti Socialiste?
Non, c'est une scission d'abord, un courant historique du Parti Socialiste, son aile gauche, qui s'en
c'est
va.
C'est une grosse prise pour vous. Est-ce que vous êtes en train d'achever le Parti Socialiste?
Mais c'est, moi, je, c'est François Hollande qui a achevé le Parti Socialiste. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça ne s'évapore pas, ne s'émiette pas dans quelque chose qui ne donnera rien, mais se regroupe, notamment autour de la France Insoumise. Après, Marine Le Pen, si vous la connaissez, est une femme de caractère, Emmanuel Morel aussi. Franchement, ils ont leur propre, mouvement, et il sait bien qu'ils viennent nous renforcer avec leurs spécificités.
Et il sera sur la liste des Européennes France Insoumise, Emmanuel Morel. Jean-Luc Mélenchon, hier sur Europe 1, l'a pratiquement...
Oui, il y aurait une logique s'il souhaite l'être. Et nous, en plus, on avait fait une liste, on avait laissé des places, qu'il soit là, il apportera. C'est d'abord un choix de cohérence, parce que sur le fond, on est d'accord.
L'idée, c'est de construire un programme commun.
Oui.
C'est ça, une unité de la gauche, le rêve mitterrandien
reconstitué. On ne pose pas la question comme ça. Il faut d'abord regrouper des forces qui sont extrêmement éclatées, et notamment sur le fond.
Mais alors, ni le PS avec vous, ni Benoît Hamon, ni le PC.
Pourquoi vous dites ça? Moi, j'en sais rien. Moi, d'abord, je regroupe des choses cohérentes. Nous, on pense qu'en le cas des traités actuels européens, on ne peut pas mener une politique sociale. Voilà ce que nous disons. Des gens nous disent, non, on peut garder ces traités, on peut changer les choses. C'est un désaccord de fond. Voilà. Il n'y aura pas de rafistolage sur la base de positions bricolées uniquement pour avoir des sièges. Et là-dessus, ça fait déjà avec Emmanuel Morel, Marine-Noël Lindemann, mais beaucoup d'autres.
Il y aura une liste avec des syndicalistes,
avec des écologistes.
Vous allez rediscuter le programme.
Ben oui. On va rediscuter.
Avec ceux de bonne volonté qui...
Là, on en a discuté, c'est un nom pour lequel ils font ce mouvement vers nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Alexis Corbière, aujourd'hui, France Insoumise présente son contre-budget comme l'an dernier. Ce sera aussi une des actualités de ce lundi. Bonne journée à vous.
Merci. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.